Voilà, un grand bonjour à chacun, un grand shalom à chacun. Voilà. Ce matin, déjà, je voudrais remercier l'invitation du pasteur, ma famille et moi, d'être là. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir ensemble partager ces instants. Dieu m'a donné une parole et je voudrais avoir cette liberté de vous l'apporter ce matin. Ma femme, mon épouse et moi, et nos enfants, nous sommes... cette église de La Rose depuis 2 ans, nous allons vers notre 3e année. Nous revenons d'un parcours où nous avons vécu en Israël pendant, pour ma part, 6 années. Ils ont vécu 2 années avec moi. Et durant ce temps, nous avons pris un temps de formation, nous avons mis un temps à part pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour mieux le servir. Et ce matin, nous allons, si vous le permettez, est-ce que vous aimez l'hébreu ? Vous aimez l'hébreu ? Ce matin, nous allons faire un peu d'hébreu, si vous le permettez. Alors, à l'église de La Rose, j'ai l'occasion d'initier à l'hébreu biblique. Et ce matin, nous allons faire de l'hébreu. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais ce matin encourager tout un chacun. Ce message de ce matin est un message d'encouragement. Je voudrais encourager ceux qui ont fait le choix de dépendre de Dieu. Ceux qui ont fait le choix de mettre leur confiance en Dieu. Je voudrais vous encourager ce matin à continuer à le faire. Malheureusement, on se rend compte, frères et sœurs, chers amis, que cette confiance qu'on a envers Dieu, des fois, peut être altérée. Malheureusement, à travers les circonstances, à travers les difficultés de la vie, cette confiance qu'on avait au départ en Dieu, elle peut s'effriter. S'effriter jusqu'au point où, je puis dire, on tourne le dos à Dieu. On en veut à Dieu. On a prié Dieu peut-être pour une situation. On a prié Dieu pour avoir un mari ou une épouse et jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas reçu. On perd patience, on s'impatiente et on se met à douter de la capacité de Dieu de pouvoir nous bénir et nous donner ce que nous lui avons demandé. Il y a de ceux qui prient Dieu pour une guérison, ils n'ont pas cette guérison. Et ils tournent le dos à Dieu, au point de se poser la question, est-ce que ça vaut encore le coup de m'attendre à Dieu ? Est-ce que ça vaut encore le coup de dépendre de Dieu et de lui faire confiance ? Malheureusement, dans l'église, aussi bien dans celle où je suis amené à servir Dieu, dans cette église ici à Istres et dans d'autres églises, je veux croire que ces phénomènes existent. Des gens qui sont là, ils sont assis sur le banc de l'église et comme on l'a entendu ce matin, qui ne louent plus Dieu parce qu'ils doutent de Dieu, parce qu'ils lèvent le poing contre Dieu. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore le secours de Dieu ? Dieu, il m'a trompé. Il m'a abandonné. Mais j'aimerais dire que dès lors que nous avons pris la décision de marcher avec Dieu, de cheminer avec lui, dès lors que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui fait de nous ses enfants, nous devons rentrer dans une forme d'apprentissage. Celui d'apprendre à dépendre de la volonté de Dieu. Que ce soit pour les choses qui concernent son service, mais également celles qui concernent les circonstances de la vie, nos choix personnels et toutes nos décisions. J'aimerais dire ce matin, dépendre de Dieu est un apprentissage. Nous allons voir ce matin la dépendance à Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi devons-nous dépendre de Dieu ? La dépendance de Dieu, c'est un thème, une thématique qui est assez vaste. On peut se poser la question, dépendre de Dieu, mais comment dépendre de lui ? À quel moment dépendre de lui ? Mais ce matin, nous allons voir précisément, frères et sœurs, chers amis, pourquoi devons-nous dépendre de Dieu ? On va voir les raisons qui me donnent ce matin de mettre toute ma confiance en Dieu. Et ce matin, si tu es là dans ce lieu et que tu as perdu confiance en Dieu, tu doutes de lui, que le Saint-Esprit ce matin puisse t'encourager à revenir à de meilleurs sentiments. Le proverbe 14:12 nous dira ceci, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Lorsqu'on fait le choix de tourner le dos à Dieu, cette voie peut paraître droite, mais cette voie assurément va nous conduire à la mort. Lorsqu'on a expérimenté que Dieu est bon, comment on peut se passer de son amour et sa grâce? Lorsqu'on a expérimenté la fidélité de Dieu et ses bontés, comment on peut vivre sans ses bontés et sa fidélité? Telle voie paraît droite à un homme, mais finalement, cette voie peut la conduire à la mort. Nous allons voir ce matin, au travers de notre réflexion, nous allons essayer d'apporter des réponses à la question que nous avons vue. Pourquoi je dois dépendre de Dieu? Quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir dépendre de Dieu? Quelles sont les raisons qui me donnent à nouveau de lui faire confiance, de lui accorder ma confiance? Il y en a qui pensent comme ça. Qu'est-ce qui me donne de lui faire confiance? Alors, en ce moment, je parle avec des sœurs et qui, elles attendent un homme, elles attendent un frère qui va les aimer, qui va vouloir les emmener plus loin dans le Seigneur, mais cet homme n'arrive pas. Et ces sœurs, elles boudent Dieu, elles veulent plus venir à l'église. Elles n'arrivent plus à louer. En tant que berger, ça m'attriste. Ça me rappelle cette parole de la semence qui tombe dans différents terrains et quand vient l'épine commence à pousser, l'épine commence à étouffer la semence. C'est véritablement ça. Elles ont reçu la semence, oui, avec joie, mais quand viennent les difficultés, quand vient le moment d'attendre le temps de Dieu, eh bien, cette semence, elle commence à être étouffée. On revient en arrière. Mais nous devons dépendre de Dieu parce que la Bible nous révèle qui il est. Quand nous apprenons à connaître Dieu, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous découvrons plusieurs raisons qui nous encouragent à placer toute notre confiance en lui. Et ce matin, parmi toutes ces raisons, je propose d'en voir trois. Et très souvent, le nom de Dieu est associé à une qualité qui va définir ce qu'il est. La première raison qui va nous encourager ce matin à dépendre de Dieu, c'est que la Bible me révèle qu'il est, on va le voir ensemble, Adonai Yireh. Pour certains, ils diront Adonai Jireh. Alors l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Non pas comme en français ou dans les langues occidentales, de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. J'ai mis d'abord l'hébreu, comme vous voyez. Ceux qui nous écoutent, ils ne verront pas, mais ils entendront. Je vais donner aussi à côté la traduction, la translittération en français. Adonai Yireh. On voit ce mot Yireh, et c'est intéressant d'étudier. On voit que ce matin, j'ai intitulé cette première partie, cette première raison, pourquoi je dois dépendre de Dieu, parce qu'il est le Dieu de la provision. Et lorsqu'on étudie ce mot Yireh, dans l'hébreu, on voit que ce mot Yireh vient de Ra'a, ce sont deux verbes, mais il est intéressant de s'arrêter un instant sur ces verbes. Ra'a, ça veut dire voir, son sens premier. Voir, regarder. Adonai Yireh, c'est le Dieu qui balaie la terre de son regard et qui voit la situation de chacun. Dieu connaît ma situation, il connaît ta situation et Dieu voit ce que tu vis. Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, il n'est pas aveugle, mais il voit ce que chacun vit dans son quotidien. Dieu est celui qui regarde. Et lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde, le fait de regarder, il y a une insistance. Dieu est celui qui considère. Il considère la situation dans laquelle je me trouve. Dieu n'est pas insensible à ce que je vis. Il examine. Mais ce qui est intéressant dans cette définition et dans à ce que renvoie ce vocable, ra'a, ce verbe en hébreu, c'est que non seulement Dieu est celui qui voit, qui regarde, qui considère, mais Dieu est celui qui veille. Non pas dit surveiller, mais Dieu est celui qui veille. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui a soin de ses enfants. Et on peut prendre un passage dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui va dans ce sens et qui va étayer ce que je veux dire ce matin. L'histoire d'Abraham. Tu connais tous l'histoire d'Abraham, cet homme de Dieu remarquable, ce père de la foi, cet homme qui est un pilier pour la religion, pour l'islam, c'est un pilier pour le judaïsme, c'est un pilier aussi pour le christianisme. Abraham, c'est ce père de la foi. Dieu va lui mettre à l'épreuve une première fois. Il va dire, va pour toi. L'air l'écha. Abraham va faire un voyage, un retour vers l'intérieur. Dieu va lui demander de quitter tout ce qu'il a pour aller à un endroit où il ne connaît pas. Dieu demande à Abraham de marcher vers l'avenir en faisant face à son passé. Est-ce que vous aimez marcher comme ça ? Comme ça. C'est une marche difficile, une marche périlleuse. S'il n'y a personne pour nous guider, vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est cette marche que Dieu va le demander à Abraham. Quitte ta patrie. Et Abraham va le faire, il va obéir sans poser de questions. Et une seconde fois, Dieu va mettre à l'épreuve à Abraham, il va lui dire, on peut le voir ensemble dans le passage dans Genèse 22, verset 8, à un moment donné où Dieu va demander à Abraham, va prier Dieu pour avoir un fils. Dieu va lui faire une promesse, une triple promesse d'une descendance. Dieu va lui promettre un pays. Et Dieu va donner à Abraham ce fils qu'il espère tant. Et à un moment donné, Abraham sera comblé parce que Dieu va lui donner ce que son cœur désire, une descendance. Mais à un moment donné, Dieu va dire à Abraham que ce fils que tu aimes tant, cet unique fils, je vais te le demander en sacrifice. On peut se demander, on peut se dire, mais Dieu est un Dieu injuste. Pourquoi demander à Abraham de sacrifier ce pourquoi il a attendu autant d'années, autant de temps? Alors même que sa femme était dans un âge avancé, sa femme n'était pas prête, n'était pas capable d'enfanter, humainement parlant. Mais Dieu, on le sait très bien, confond la science et la médecine. Et Dieu est celui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Et Dieu est le Dieu de la création, celui qui donne, qui pourvoit. Et Dieu va donner à Abraham ce fils à son âge avancé, alors que sa femme est en âge avancé, et Dieu va lui demander d'offrir ce fils qu'il aime tant, en sacrifice. On le lit, Abraham répondit, et quand son fils va lui demander, mais Abraham va prendre son fils, il va lui dire, viens mon fils, on va à la montagne, on va sur le mont Moria, et on vient, accompagne-moi. Et son fils lui dit, mais papa, il est où le sacrifice? Il est où l'agneau qu'on doit offrir à Dieu? Et Dieu lui dira ceci, Abraham lui dira ceci à son fils, Dieu choisira lui-même ou se choisira l'agneau de l'Holocauste, mon fils. Et ils allèrent tous deux ensemble. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois sous la montagne et que tout est prêt pour le feu, tout le bois est là et Isaac demande à papa, mais il est où? Il est où l'animal? Normal, on va offrir le sacrifice à Dieu, il n'y a pas d'animal, il y a un problème. Mais le gamin, il est loin d'imaginer ce qui va se passer. S'il savait ce qui allait se passer, peut-être qu'il allait prendre la fuite. Mais Dieu lui dira, Dieu se choisira. Dieu pourvoira. Et on voit que ce qui est intéressant de voir, c'est sur ce mont Moria, dont l'étymologie est intéressante, parce que Moria, et ce lieu, est un lieu important dans la Bible. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu, mont Moria, frères et sœurs, ce qui est intéressant de comprendre, si j'en parle, c'est parce qu'il y a plusieurs histoires qui se sont déroulées sur ce mont. Tout d'abord, l'histoire avec Abraham qui va vouloir offrir son fils en sacrifice. Il y a aussi également un moment donné où David va vouloir acheter un champ pour offrir un holocauste à l'Éternel. Une aire d'abattage. Et encore aujourd'hui, à Jérusalem, sur le mont du Temple, ça crée une grosse division entre d'une part les musulmans et d'autre part les juifs. À l'époque où il y avait le temple de Jérusalem, le temple était construit sur cette fameuse partie, le mont Moria. C'est une petite pierre, petite pierre, qui crée autant de discorde entre les juifs d'un côté et les musulmans de l'autre. Tout le monde réclame l'appartenance à cette petite pierre, le mont Moria. Et sous ce mont Moria, Dieu, face à Abraham, a pourvu. Dieu a changé. Ce Moria vient du mot de par mort, mour, qui veut dire changer, échanger. Là, dans cette situation précise, Dieu va échanger le fils Isaac contre un bélier. Dieu va pourvoir au sacrifice. Dieu ne va pas laisser à Abraham égorger son fils. Mais dans cette situation, Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Et dans cette situation, on voit que Dieu est celui qui va pourvoir. Abraham va lever les yeux au verset 13, dans Genèse 22, et il vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il va prendre le bélier, il va offrir un holocauste à la place de son fils. Et Dieu voit la situation. Il regarde avec un regard bienveillant. Et Dieu va pourvoir aux besoins d'Abraham. Et mon frère, ma sœur, la même situation. Et Dieu, il voit chacune de nos situations. Et Dieu est celui qui regarde avec un regard bienveillant ce que je vis, ce que j'entreprends. Et il est celui qui va pourvoir à chacun de mes besoins. La Bible nous dit que Dieu est celui qui prend soin de sa créature en pourvoyant à ses besoins. On peut lire, si vous voulez, le psaume 104. Psaume 104, on peut lire à partir du verset 10. Ceux qui ont la Bible, je sais que j'ai monopolisé l'écran, mais le psaume 104, verset 10, on dit ceci. Il dit, « Tu as fait jaillir des sources dans les vallées, elles poursuivent leur course entre les montagnes, elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y étanchent leur soif. » Et ce passage est là pour montrer que Dieu prend soin de toute sa créature, toute sa création. Sur leurs bords, les oiseaux du ciel font leur demeure, et d'entre la feuillée, ils élèvent leur ramage. Du haut de ta résidence, tu arroses les montagnes, la terre est nourrie de fruits de tes œuvres. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques. On voit là comme une chaîne où Dieu fait pleuvoir pour pouvoir abreuver toute sa création. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, tes plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa nourriture du sein de la terre, le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui a fait resplendir les visages, le pain, enfin, qui fortifie le cœur de l'homme. Toute une chaîne. Et il est dit dans verset 27, « Tous mettent en toi leur attente, assurés que tu leur donneras leur nourriture en temps voulu. » Alléluia. « Tu leur as donné, ils la recueillent et tu ouvres la main, ils sont comblés de bien. » Dieu est celui qui pourvoit, mais qui pourvoit en son temps. Alléluia. Bien-aimé, le temps de Dieu est le meilleur. Et souvent, on a du mal avec cette vérité. Le temps de Dieu est le meilleur pour moi. On voit l'exemple d'Élie, qu'à un moment donné, Dieu va annoncer à Élie qu'il y a une sécheresse, il n'y aura ni rosée ni pluie. Dans 1 Roi 17, verset 1 à 6, Dieu dira, « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est vers le Jourdain. » Et il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Et Élie s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habita au torrent de Kérit qui est vers le Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair, de la viande, le soir, il buvait au torrent. Et là, on voit qu'il y a une situation de crise, la famine. Et Dieu va dire à Élie, sors de là. Sinon, tu vas périr. Va là où je te dirai. Élie n'a pas calculé, il n'a pas commencé à tergiverser avec Dieu, à poser des questions. Il s'est mis debout, il est parti là où Dieu lui a demandé d'aller. Et Dieu a. Mais à bout d'un moment, au verset 7, il nous est dit que le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Et à un moment donné, on voit que Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie. Pas de n'importe quelle manière, Dieu va utiliser un corbeau, un animal impur, pour nourrir son serviteur. Et lui aurait pu dire, Seigneur, mais le corbeau, il est impur. Commencer à dialoguer avec Dieu, non, mais il a accepté. Il a mis de côté tout ce qu'il savait. Il a accepté de rentrer dans la volonté de Dieu. Et le corbeau, cet animal qui est rapace, cet animal qui n'aime pas partager, qui pense qu'à lui, mais cet animal sera au service de Dieu. Et Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie dans ce lieu. Tout ça pour dire que même dans un lieu sec, aride, où il n'y a rien du tout, la sécheresse, Dieu est celui qui fait tomber du ciel la nourriture pour celui qui aime. Et quand viendra la sécheresse à nouveau, Dieu va demander à Élie de partir et de se diriger vers Sarepta. Et là, il va s'installer. Et là, une femme va le nourrir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais dire par là, mes bien-aimés, que Dieu pourvoir à sa manière. Tu as demandé à Dieu peut-être quelque chose pour ta vie. tu as un besoin aujourd'hui. Ce besoin est pressant. Dieu le sait. Mais ce qui est important, c'est de demeurer dans l'obéissance. Quand Dieu parle et que tu distingues cette voix, commence pas à remettre en question la voix de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de rentrer et de marcher dans le chemin de l'obéissance. Élie a obéi. Et son obéissance a attiré la faveur de Dieu. Son obéissance a attiré la bénédiction de Dieu. On ne court pas derrière les bénédictions de Dieu, mais on les attire à soi par notre obéissance et notre fidélité. Élie a dépassé ses préjugés et s'est laissé nourrir, tantôt par les corbeaux, tantôt par la veuve. Et Dieu est celui qui pourvoit à sa manière, avec le peu. Dieu est celui qui multiplie. Elle nous dit que Dieu, tel un père, prend soin de ses enfants et pourvoit à ses besoins. Jésus dira ceci dans Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne recueillent rien dans des granges. Mais il dira ceci, votre Père céleste les nourrit. Il posera une question à ses disciples. Il leur demandera, et je vous pose la question ce matin, ne valez-vous pas plus que ces oiseaux du ciel? Dieu se soucie de tous les moindres détails de notre vie, même les choses qui paraissent insignifiantes et dérisoires. Le nombre de cheveux sur notre tête, elle est comptée, sans compter. C'est ce que nous dit Matthieu 10, 29, 31. Ne vendons pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant, pas une ne tombe par terre sans l'accord de notre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que des moineaux. Dieu connaît, il nous connaît, te connaît parfaitement. Souvent dans des situations, mes frères et sœurs, on demande à Dieu quelque chose. Des fois, nous ne sommes pas prêts. On dit, Seigneur, fais tomber la pluie. Seigneur, arrose. Arrose mon jardin. Arrose ma vie de ta bénédiction. Mes frères et sœurs, on demande à Dieu la pluie. On n'a rien pour recueillir la pluie. On n'a pas de seau, on n'a pas de récipient. Nos mains sont fermées, on veut la bénédiction. Non. Dieu ne nous a pas bénis des fois parce qu'on ne sommes pas prêts simplement. Si Dieu nous bénissait, peut-être que ces bénédictions qu'on aurait eues, on l'aurait détruit. On l'aurait détruit. Le temps de Dieu, c'est ce qui convient pour chacun d'entre nous. Et nous devons apprendre à régler notre horloge sous celle de Dieu. Pierre, dans ses recommandations qu'il adressera aux anciens et aux plus jeunes, il leur dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Sur lui, c'est sur Jésus. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu veut pouvoir à vos besoins qui sont en accord avec sa volonté. La volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est parfaite. Mais des fois, je dois apprendre à l'accepter. Et c'est ça le plus dur, d'accepter la volonté de Dieu. Seigneur, non pas la mienne, mais la tienne. Oh Seigneur, combien c'est difficile. Mais c'est un apprentissage. L'apôtre Paul, ce grand serviteur de Dieu, dira à l'église de Philippe, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit une partie de vos besoins, mais à tous vos besoins. Quand Dieu donne, il donne en abondance. Quand Dieu pourvoit, il ne pourvoit pas à moitié. Mais Dieu est celui qui donne au-delà de ce que je lui demande. Mais il faudrait que ce que je lui demande soit en accord avec sa volonté. Nous avons de grandes richesses en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu est celui qui voit. Il voit nos situations, il voit nos détresses. Il voit nos afflictions et n'est pas insensible. Je te le rappelle ce matin, Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu n'est pas un père fouettard, il n'est pas un sadique, mais c'est un père rempli d'amour, de compassion et qui désire combler chacune de nos vies. Ce matin, je veux t'encourager à dépendre de Dieu, à lui faire confiance, parce qu'il est celui qui va te donner ce que ton cœur désire. Ce à quoi tu aspires. La Bible nous dit ceci, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, je dis bien toutes choses, vous sera données par-dessus tout ou en plus. Alors, cherche d'abord le royaume de Dieu. Active-toi. Fais de cela tes délices. Et en son temps, il te donnera ce que ton cœur désire. Je voudrais poursuivre et avancer. La deuxième raison qui nous encourage ce matin à avoir confiance en Dieu, à dépendre de lui, c'est que la Bible nous révèle notre qualité de Dieu. Non seulement c'est le Dieu qui voit, qui regarde, qui examine nos vies, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, mais Dieu, la Bible présente Dieu comme le Adonai Rapha. C'est quoi ça? C'est quoi un rophée? Ah ah, c'est pas le guerrier. On arrive. Le rophée, quand on est malade en Israël, on va chez le rophée. On va chez le docteur. On va chez le médecin. Adonai Rapha. Rapha, et on va le voir. Vraiment, un passage. Exode 15, 26 nous dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te... Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Qui te guérit. Alléluia. Et lorsqu'on voit... On va prendre d'abord le contexte de ce passage. Le peuple est là, il va traverser la mer Rouge avec Moïse à sa tête et qui dirige le peuple. Ils sont là à cheminer vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche, il se passe quelque chose. On a marché pendant 3 jours, il n'y a plus d'eau. Ah, problème. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau, c'est problématique. Un gros problème. Ils arrivèrent à Mara et ne purent pas boire l'eau parce que l'eau était amère. Ils vont faire quelque chose que Dieu a en horreur. Ils vont commencer à murmurer. Ah, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu a horreur les murmures. Et mon frère, ma soeur, si ce matin tu es dans les murmures, je t'encourage à arrêter ça tout de suite. Dieu, s'il y a une chose dont il a en horreur, c'est qu'on puisse murmurer. Murmurer revient à dire que Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'agis pas au bon moment. Tu ne connais pas ma situation. Tu es injuste. C'est ce qu'on veut dire lorsqu'on murmure à Dieu. On doit apprendre à dire, Seigneur, dans cette situation, tu es souverain, tu règnes en majesté, rien n'échappe à ton contrôle. Dans cette situation, tu as une solution. Mais le peuple va murmurer contre Moïse. Et Moïse, dans cette situation, sera pressé, oppressé, va crier à Dieu. Et Dieu va lui indiquer un morceau de bois qu'il va jeter dans l'eau. L'eau deviendra douce. Et là, ils vont boire. Et c'est à ce moment-là que Moïse va prendre la parole et va dire ceci au peuple. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'on voit le mot rophé, comme j'ai dit, médecin, vient de Rapha, qui veut dire guérir. C'est le sens premier. Mais ce mot ne veut pas dire simplement guérir. Ça renvoie aussi à la notion de pensée. Et ce qui est bien avec l'hébreu, c'est qu'un mot, un terme, renvoie à plusieurs notions. Et ça donne une plus grande compréhension, une compréhension beaucoup plus riche de la pensée de Dieu. Quand je dis ce matin que Dieu est le Dieu, le grand rophée, le grand médecin, c'est que Dieu est capable de me guérir. Et je vais dépendre de lui parce que la guérison est en lui. Je vais dépendre de lui parce que Dieu est celui qui sait panser mes blessures. Peu importe la profondeur de cette blessure, peu importe l'intensité, mais Dieu, comme un baume, pose sa main sous mon cœur et est capable de la restaurer. Dieu est celui qui pense. Et combien d'entre nous, parfois, on a été blessés par le passé, blessés par les mauvais choix, les mauvaises décisions, et souvent, on accuse Dieu, c'est ta faute. Mais les choix, c'est nous qui les avons faits, c'est pas Dieu. Les décisions, c'est nous qui les avons prises, c'est pas Dieu. Mais quand même, on dit, Dieu, c'est ta faute. Tu me l'as pris, tu me l'as volé. Je peux comprendre qu'on peut être triste quand celle qu'on aime, elle décède brutalement. La maladie a frappé. cette personne n'est plus. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me l'as enlevé? Pourquoi maintenant? Cette personne était en âge, beaucoup de projets devant elle. Tout s'arrête. Seigneur, pourquoi? Tant de pourquoi, tant de questions. Mais ce matin, l'Éternel est celui qui pense, qui guérit les blessures. Il n'est pas la cause de notre malheur, au contraire. Dieu est celui qui assiste le faible dans sa faiblesse. Et ce qui est intéressant, et on le voit dans la parole de Dieu, on prend un passage qui dit, un premier passage, Psaume 147, verset 3, qui dit ceci, « Et Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. » Dieu est celui qui veut pardonner. Alléluia. Et celui qui veut pardonner. Et je m'adresse ce matin essentiellement à des hommes et des femmes qui marchent avec Jésus. Il y a peut-être de ceux qui sont là qui ne connaissent pas encore Jésus, mais ma prière c'est que tu le connaisses. Il se révèle à ton cœur. Mais essentiellement ce matin, je m'adresse à ceux qui sont là, qui marchent avec Jésus, mais qui à un moment donné ont aussi lâché sa main dans le cœur. Et ils sont debout devant Dieu et ne fléchissent plus le genou. Mais ce matin, réalise que Dieu est celui qui pardonne. Hier, je disais à une personne que toutes les fois, tu demandes pardon à Dieu, il est celui qui va te pardonner. Même si tu commets la même faute plusieurs fois, mais dès que tu es sincère dans ta foi et dans ta demande, Dieu te pardonne. Je dis en revanche, demande à Dieu la force aussi de ne pas recommencer. Demande à Dieu la force de passer ce palier et ce test. Mais toutes les fois, on demande pardon à Dieu. Il est celui qui nous pardonne. Jérémie dira ceci, Jérémie 3, 22. Il parlera au peuple, il dira, « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es éternel, notre Dieu. » Dieu est celui qui pardonne. Aucune faute, aucune transgression, aucune situation n'est perdue. Elle nous dit que le Seigneur, à la croix, a porté tous les péchés de l'humanité. Et ce matin, au lieu de tomber dans la culpabilité, réalise que l'Éternel est le grand médecin, celui qui, le médecin de l'âme, qui est capable de pardonner tous tes péchés. Le passé est le passé, mais Dieu ne tient pas compte du passé. Ce qui est important pour lui, c'est ce que tu veux aujourd'hui et là où tu veux aller. Et Dieu est celui qui pardonne, mais qui également qui rend saint. Dieu est un Dieu de sainteté et celui qui veut nous sanctifier par sa parole. Il veut celui qui veut nous consoler. J'ai vu ses voies et je le guérirai, dira Esaïe. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Dieu veut nous redonner notre dignité. Dieu veut nous redonner la joie du salut qu'on a perdu. Et combien d'entre nous, des fois, sont là, on vient à l'église, mais on est triste. On est triste parce qu'on est accablé de toutes parts. Mais ce matin, le Seigneur veut nous relever, veut nous restaurer, veut nous fortifier. Joël dira ceci, « Je vous remplacerai, je resterai les années qui ont dévoré la sauterelle, le grillon, la chenille. » Le Seigneur est capable de nous redonner ce que l'ennemi nous a volé. Ce que l'ennemi est venu, il est passé, il a détruit, mais Dieu est capable de nous le redonner. Alléluia. Dieu est celui qui restaure. Même si la sauterelle est passée, le grillon est passé, la chenille est passée, il a tout détruit. Mais Dieu, à partir de rien, peut redonner la vie. Il est capable de donner de la vie aux ossements déchaissés. Qu'à son nom soit la gloire. Dieu est le grand refait. Le refait de mon âme. Le médecin de mon âme. Et puis la troisième raison qui va nous donner de dépendre de Dieu, c'est que la Bible révèle que non seulement que Dieu est celui qui pourvoit nos besoins, et en cela, je dois m'attendre à lui pour tous mes besoins. Et Dieu est celui qui est le médecin de mon âme, le médecin de celui qui guérit mon cœur. La Bible dira, Jésus dira que l'Esprit du Seigneur est sous moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer des temps de grâce, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais également, la Bible nous révèle que Dieu est celui qui marche à la tête de son armée. Dieu est l'Éternel des armées. Dieu est le grand grand guerrier, le puissant guerrier. Adonai Tsevaot. Dieu est celui qui combat pour moi. Pas que pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Dieu est celui qui combat pour nous. Dieu combat pour son Église. Dieu combat pour ses enfants. En hébreu, Tsava veut dire armée. Et le pluriel, c'est Tsevaot. Psaume 46, verset 7 nous dit ceci. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dieu est le puissant guerrier. Puissant guerrier fort dans les combats. On le chante. On le chante. Il est le puissant guerrier. Et ce qui est bien, lorsqu'on étudie ce vocable de l'Éternel des armées, c'est que quand on voit l'histoire d'Israël, Israël n'a pas toujours été le peuple le plus fort. Non. Il n'a pas été non plus à la pointe de la technologie non plus. Quand on voit l'armée syrienne, quand on voit l'armée des Philistins, quand on voit l'armée égyptienne, on se rend compte que ces armées étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus entraînées, exercées que le peuple d'Israël. Mais ce qui faisait leur force, c'est parce qu'ils avaient à leur tête le puissant guerrier. Ils avaient à leur tête celui qui était capable de renverser toutes les armées. Et dès lors que Israël marchait avec son Dieu dans l'obéissance, ils avaient la victoire. Mais dès lors qu'ils étaient, ils allaient vers d'autres dieux, ils étaient dans l'idolâtrie, eh bien, la puissance de Dieu se retirait et ils étaient dans la défaite. Non, Israël n'était pas plus que les autres peuples. Mais c'est parce qu'ils avaient dans son sein Dieu avec eux qui pouvait remporter de nombreuses victoires. L'Éternel est celui qui marche devant son peuple et c'est lui qui combat pour son peuple. On peut lire un passage dans Ésaïe 29, verset 6 qui nous dit ceci. L'Éternel des armées interviendra chez toi avec le tonnerre, un tremblement de terre et de grands bruits, avec l'ouragan et de la tempête, de la flamme, d'un feu dévorant. Ça, c'est le puissant guerrier. Quand Dieu se met en colère, qu'est-ce qui peut résister? Qu'est-ce qui peut tenir? La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux dépendre de Dieu parce qu'il est celui qui combat pour moi. Il y a de nombreux combats dans la vie, frères et sœurs, qu'on a du mal à remporter par soi-même. Tout comme Israël. Mais si lorsque je marche dans l'obéissance à Dieu, je lui fais confiance, je marche avec lui, je renonce au péché, je renonce à une vie légère, je peux être assuré que Dieu marche à mes côtés. Je peux être assuré que peu importe le défi que j'aurai, peu importe la difficulté, peu importe la montagne, peu importe ce que j'aurai en face comme adversité, je peux être assuré que Dieu combat pour moi. Je peux être assuré que j'ai la victoire parce que celui qui combat pour moi est l'Éternel désormais. On voit que dans le désert, pendant cette période du désert où le peuple sort d'Égypte, on voit dans Exode 13, 21, il nous dit ceci, que l'Éternel allait devant le peuple le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu s'est engagé à protéger le peuple. Dieu s'est engagé. Et pendant toute cette période, tout le temps que Dieu s'est engagé avec le peuple, il n'en est rien arrivé. Le peuple a été gardé. Dieu a guidé le chemin. Parce que Dieu s'était engagé. Et pareil, mon frère, ma soeur, Dieu s'engage à nous protéger. Jésus dira ceci, je suis avec vous tous les jours. Dieu nous promet la présence de son Fils, Jésus, dans notre quotidien, dans toutes nos situations. Il est là avec nous. On a l'assistance du Saint-Esprit. Pour nous donner de résister, de faire face au péché, à la chair et à ce système avec ses valeurs et ses principes contraires à Dieu. L'Éternel est le puissant guerrier. Esdras dira ceci, à un moment donné, cet homme remarquable de Dieu est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Esdras était un homme de foi, était un homme qui aimait la parole de Dieu, était un homme versé dans les Écritures. Cet homme, à un moment donné, ira voir le roi et Il est en train de préparer le départ pour monter vers Jérusalem. Et dans ce préparatif, Esdras aura le bon réflexe. Il va demander au peuple de jeûner et de prier. Vous savez, frères et sœurs, dans tout ce qu'on entreprend, la phase la plus importante, c'est la préparation. Tout ce qu'on entreprend pour Dieu dans la vie, c'est un principe, c'est la préparation, c'est la phase la plus importante que des fois on néglige. Mais Esdras va convoquer le peuple et ils vont jeûner et prier. Et Esdras a la faveur du roi, mais Esdras se rend compte qu'il y a un problème. Si je demande au roi une armée pour nous accompagner durant le trajet, il y aura un problème. Il dira ceci parce qu'on le voit dans un passage où il dira, Esdras chapitre 8 verset 22, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. » Esdras va confesser devant le roi que, et si Dieu, il dira la main de notre Dieu est pour notre bien et pour tous ceux qui le recherchent. Il dira, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Esdras, quelque part, en train de dire au roi, « Roi, notre Dieu est pour nous. Il est avec nous. Et si on le cherche, alors on a sa faveur. On est sûr qu'il nous protégera. » C'est une prise de position. Esdras est en train de dire, roi, littéralement, roi, puisque Dieu est avec nous, on n'a pas besoin de ton armée. On n'a pas besoin de ton aide. Mais quelque part, Esdras voit quelque part comme déplacé de demander au roi de lui donner une armée pour l'accompagner sur le chemin. Mais Esdras va se rappeler que Dieu leur est favorable. Et sa présence à ses côtés vaut mieux plus que la plus puissante des armées. Esdras est en train de réaliser et il se rappelle des paroles qu'il a données au roi et ces paroles vont revenir dans son cœur. Il va dire, effectivement, c'est vrai. Si Dieu est avec moi, peu importe la puissance de l'armée syrienne, j'en ai pas besoin. Et l'histoire nous montre que sur ce chemin pour monter à Jérusalem, Dieu va les garder de nombreux dangers et vont arriver à bon port. Dieu va garder leur départ et leur arrivée. Je dis cela, mon ami, ce matin, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions réaliser simplement que Dieu est celui qui combat pour moi, combat pour toi, combat pour nous. Dieu est celui qui nous promet, qui s'engage à nous protéger. Je veux qu'on réalise ce matin que, et ce principe est important, écoutez attentivement, dès lors que je réalise que Dieu, mon Dieu est souverain, dès lors que je réalise que rien n'échappe à son contrôle, c'est un principe de base. Dès lors que je réalise cela, donc je réalise que Dieu est celui qui permet des choses dans ma vie. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu permet des fois des situations dans ma vie. Mais même dans ces situations, Dieu en a le contrôle. Quand j'ai une adversité, quand j'ai un combat, je dois prendre des bonnes armes. Non pas les armes charnelles. Et bien souvent, le combat du chrétien est contre les puissances. Contre les puissances, contre les autorités. Et je dois prendre des bonnes armes. Des armes spirituelles. Mais je dois m'attendre surtout à ce que Dieu puisse me délivrer de ma situation. Combien de fois on a perdu des défaites parce qu'on a voulu faire par soi-même. On a pris les armes charnelles. On n'a pas prié. On n'a pas demandé à Dieu. Et on tombe dans la défaite. Esdras a eu le bon réflexe de s'adresser à Dieu, de prier, de demander les directives. Lorsque Dieu nous est favorable, il nous a la capacité de remporter de nombreuses victoires. Esdras, ainsi que le peuple, s'en remettait à Dieu pour être guidé. Et Dieu était celui qui garantissait leur départ et leur arrivée. Puis une dernière expérience que serviteur de Dieu, Élisée, fera avec le Seigneur pour nous montrer véritablement que l'armée de l'Éternel, elle est grande. Et si Dieu nous donnait de voir cette armée, on aurait pris la fuite. Élisée se retrouve avec son assistant, si je peux le dire ainsi. Et ils sont là à un moment donné. Et ils sont sur une colline, sur une montagne, et ils sont assiégés par l'armée syrienne. Et l'assistant d'Élisée est là, il est dans la panique. Il dit, mais Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? Il voit l'armée syrienne autour et c'est la fin. Mais Élisée va, lui dire ceci dans 2 Rois 6, 16 à 17. Il dira, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée va prier l'Éternel et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour voir quoi ? Pour voir que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est une expérience particulière, une expérience unique que l'assistant d'Élisée va vivre. Élisée va prier, il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Moi, je les vois déjà. Je sais que ton armée, l'ange de l'Éternel, campe pour tous ceux qui le craignent. Je sais que l'armée de l'Éternel, même si on ne le voit pas avec les yeux charnels, mais ils sont là. Mais il dira, Seigneur, lui, il n'a pas cette foi, cette confiance en toi. Lui, il n'a pas expérimenté comme tu es grand et puissant. Seigneur, ouvre ses yeux. Qu'il puisse voir ce que je sais, ce que je connais de toi. Cet homme va voir, va ouvrir les yeux. Ses yeux sont déjà ouverts, mais les yeux spirituels. Il verra la montagne entourée de chars, de cavaliers en feu, pour montrer que on n'a pas de quoi avoir peur. Dieu est un refuge dans la détresse. Dieu est un refuge et la force de ceux qui lui appartiennent. Un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Je vais dépendre de Dieu, non seulement parce qu'il est refuge dans la détresse, mais parce que sa parole m'apporte la sérénité, la paix et la tranquillité. Matthieu dira ceci, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme un berger, sa houlette, notamment son bâton, sont là pour protéger. Vous savez, le berger, il a deux choses à la main. La houlette pour attraper la brebis quand elle est dans un endroit un peu périlleux, en danger. Il va la tenir, il va la tirer. Mais le berger aussi a autre chose dans la main. Il ne fera pas avec la houlette. La houlette est là pour protéger. Il a un bâton pour défendre contre les ennemis. Et tout comme un berger a sa houlette et son bâton, notamment son bâton, qui est là pour protéger contre les agresseurs, mais ces choses, comme dit le psaume 23, sont là pour me réconforter. Et même si je marche dans la sombre vallée de la mort, et cette vallée, elle est terrible, hein, la vallée de la mort. Et le psaume 23 nous dit ceci, je ne craindrai aucun mal. Et je terminerai sur ceci, en me disant que c'est vrai qu'il est important de faire confiance à Dieu, de dépendre de lui pour notre protection. Dieu est celui qui nous secourt. Et je vais arrêter de lui tourner le dos. Je vais arrêter de faire la guerre à Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais si Dieu est contre moi, qui sera avec moi? Personne. Et celui qui fait la guerre à l'Éternel n'a aucun succès. Et c'est pour cela que mon frère, ma soeur, peut-être ce matin, si cette parole elle est pour toi, et si tu es là, tu entends ce message, je t'invite vraiment à revenir à de meilleurs sentiments, à demander pardon à Dieu et de lui dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'apprendre à nouveau à te faire confiance. Ça va peut-être prendre du temps, mais apprends-moi à activer vraiment cette volonté, ce désir de mettre totalement ma confiance en toi. De Chroniques 13, 12 nous dit ceci. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire. De Chroniques 13, 12, pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. L'homme de Dieu est en train de dire au peuple, enfants d'Israël, je vous en conjure, ne faites pas la guerre à l'Éternel. Et combien d'entre nous font la guerre à l'Éternel? C'est une cause perdue d'avance. Mais ce matin, on vous dit, Seigneur, tu nous as parlé. Et ce message, nous voulons le transmettre à d'autres, de ceux que nous connaissons qui te font la guerre et qui sont au bord du chemin, qui ont abandonné la voie de la foi au détriment de l'incrédulité. Nous voulons te prier ce matin que tu puisses donner à chacun de réaliser que c'est une cause perdue d'avance que de faire la guerre à l'Éternel. Parce qu'on n'aura aucun succès. Et pour conclure, nous devons ce matin apprendre à dépendre totalement de Dieu. C'était la thématique de la pensée de ce matin. Apprendre à dépendre de Dieu. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui me donne d'avoir confiance à Dieu et de dépendre de lui. Ben, simplement parce que la Bible nous révèle que Dieu et l'Éternel Adonai Jireh, celui qui voit, qui a un regard sur ce qu'on fait, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est le Dieu de la provision. Lorsque Dieu te donne une vision, sois-en sûr qu'il a pourvu à cette vision. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Je veux lui faire confiance pour mes projets, pour la vision qu'il m'a donnée. Je lui demande ce matin de le ranimer, car c'est lui qui pourvoit à cette vision. Autre chose qu'on a vu ce matin, dépendre de Dieu, totalement de lui, parce qu'il est le grand médecin. C'est le Dieu qui apporte la guérison, la restauration de mon âme. C'est le Dieu qui rétablit, qui restaure, qui pense, qui renseigne, qui console. C'est celui qui rétablit. Et pour finir, je veux apprendre à dépendre de lui parce que c'est celui qui marche à la tête de son armée. C'est Adonai Tsevaot, celui qui protège son peuple et qui défend. Celui qui protège ses enfants et qui défend ses enfants. C'est celui qui met au large et qui nous place au sec. Et je termine sur ceci. Celui qui fait la guerre à l'Éternel n'a aucun succès. Seigneur, merci. Merci pour ta parole en ce matin. Merci parce que ce matin, nous voulons réaliser que nous devons renouveler notre confiance en toi. Ce matin, je ne sais pas ce que vit cette église. Je ne connais pas les défis auxquels elle doit faire face. Je ne sais pas ce que vit ses fidèles. Je ne sais pas où tu en es ce matin dans ta situation. Mais je vais t'inviter à avoir confiance en Dieu. Je vais nous inviter ce matin à renouveler notre confiance en Dieu. Et qu'elle ne soit pas partielle, mais qu'elle soit totale et entière. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à te faire confiance sans douter. Apprends-nous à nous appuyer sur ta parole, car ta parole est la vérité. Donne-nous de projeter nos regards sur cette parole de vie. Nous voulons un point nous en détourner. Mais nous voulons à nouveau la méditer comme quelque chose de primordial et d'important. Seigneur, ce matin, je te prie pour une personne qui est dans ce lieu et qui t'a tourné le dos, qui lève le poing contre toi. Ce matin, je te prie pour cette personne ou ces personnes afin que tu enlèves en elle l'animosité, que tu penses les blessures, que tu restaures toutes choses dans les cœurs et qu'elles reviennent à de meilleurs sentiments. Je prie ce matin que tu ouvres puissamment par ton Saint-Esprit dans ces cœurs. Je prie que tu renouvelles par le Saint-Esprit et que tu nous donnes de réaliser que nous devons avoir foi en toi, te faire confiance pour tous nos projets, pour notre avenir, pour notre présent, et que tu es celui qui pourvoit en ton temps. Et quand tu donnes en abondance. Qu'à ton nom soit la gloire, Jésus. Amen.